Nancy Ypsilantis
et Jean-Marc Falcombello. Bonjour et bienvenue dans Babylone. Drôle de question, drôle de sujet aujourd'hui dans cette émission. L'œil voit, mais qui, à travers l'œil, voit ce que l'œil voit? Vous avez compris? Accrochez-vous. C'est avec le philosophe Michel Bitbol, Jean-Marc, que nous allons développer cette prise de conscience de la conscience grâce à un ouvrage, un gros pavé, « La conscience a-t-elle une origine ? Des neurosciences à la pleine conscience, une nouvelle approche de l'esprit » c'est paru aux éditions Flammarion.
Dans la Bibliothèque des Savoirs. Alors effectivement, vous l'avez dit, gros pavé pour traiter d'un sujet quand même pas si simple. Et pourtant, c'est ça qui est juste dingue, Nancy, c'est qu'elle est juste là avec nous, cette question. Alors, juste peut-être une chose, c'est que en faisant l'émission, je me suis dit, mais oulala, tout à coup on fait une émission sur un non-objet. C'est vrai, on peut faire une émission sur tel tableau, telle exposition, telle recherche, découverte, etc. On a toujours un objet. Et puis là, tout à coup, on n'a plus d'objet. C'est-à-dire, on est juste en train de se demander, mais finalement, qui est en train de parler? Vous êtes en train d'écouter qui? Moi, je me vis comment en étant conscient de ce que je suis en train de vous dire, etc. Alors, on pourrait se dire, grosse prise de tête, non. Parce qu'en fait, c'est peut-être un peu compliqué, mais pourtant, c'est vraiment l'idée de revenir à cette expérience. Très simple, se demander finalement, c'est quoi la conscience? Comment ça se fait que j'ai un monde qui apparaît comme ça dans mes yeux? On va l'entendre hein, avec Michel Bitbol. Et ce qui est très intéressant dans son ouvrage, hein, « La conscience a-t-elle une origine ?», c'est de proposer une forme d'enquête. C'est-à-dire de faire que le lecteur, tout à coup, se dit « Ah oui, tiens, au fait ». Je suis en train, là, de lire, mais qui lit? Alors, c'est très astucieux, c'est très savant, faut dire que, voilà, il a de nombreux doctorats, de nombreux domaines, physique quantique, médecine, etc. Et donc, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à Genève, et là, je lui ai posé une question, très simple, c'est finalement pourquoi aujourd'hui, on entend beaucoup parler de ce thème des consciences, ou de la conscience, pourquoi cette résurgence aujourd'hui dans notre monde?
C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez remarquable dans le fait que cette question circule un petit peu partout de nos jours. Elle a commencé à circuler il n'y a pas si longtemps, elle a commencé à recirculer de façon extrêmement courante il y a une trentaine d'années environ, lorsque l'espèce de censure qui avait été établie sur la psychologie introspective par le behaviorisme a commencé à céder du terrain et que de nouveau des journaux comme le Journal of Consciousness Studies ont été publiés avec pour thème quasi exclusif la conscience. Il semble bien aussi que ça ne soit pas seulement une évolution purement intellectuelle et purement scientifique, mais aussi une évolution dans la manière d'être au monde de l'homme contemporain. L'homme contemporain a peut-être eu assez de cette course indéfinie vers des objectifs, y compris vers des objectifs de connaissance, et veut également réaliser d'où il part. Et il s'assoit, en quelque sorte, au lieu originaire de toute son enquête. Et ce lieu originaire de toute son enquête, c'est précisément l'expérience consciente.
Est-ce qu'on peut même dire, Michel Bitbol, le point d'origine de la connaissance ?
Tout à fait, bien sûr. Toute connaissance n'est pas simplement une chaîne abstraite de caractères, comme voudraient nous le faire croire les tenants de l'intelligence artificielle, mais c'est la réalisation d'une vérité. Et la réalisation d'une vérité est une expérience. Une expérience probablement l'une des plus vives que l'on puisse avoir.
Alors quand vous dites une expérience, eh bien ça nous place tout de suite à la fois au cœur de la question, mais aussi au cœur d'une possibilité de compréhension. Expérience, expérience de quoi alors ?
On pourrait dire, évidemment, de façon très plate, expérience de tout ce qu'il y a, de toutes les choses qui sont à voir, à entendre, à sentir et aussi à imaginer. Mais en même temps, l'expérience, ce n'est pas seulement une expérience de quelque chose, contrairement peut-être à un slogan qui est dû à Husserl, mais c'est la réalisation aussi d'une situation complètement unique, complètement stupéfiante par son caractère non voulu, le fait que, comme d'autres philosophes le disaient, en particulier Heidegger, nous sommes jetés au monde, jetés avec notre ouverture au monde. Cette ouverture au monde, c'est cela qu'on appelle expérience. Ce qui est important, ce n'est pas de quoi elle parle, ce n'est pas à quoi elle donne accès, mais ce qu'elle est justement accès à, qu'elle est ouverture à, quel est, comme le disait par exemple Merleau-Ponty, quel est ce vide qui est prêt à se remplir de la plénitude du monde. Réaliser cette ouverture en deçà, je dirais, de ce à quoi elle est ouverture, c'est-à-dire en deçà du monde, c'est aussi une expérience exceptionnelle. Quand nous nous posons la question, mais d'où vient donc la conscience ? On a effectivement la tendance à aller chercher l'origine quelque part. On la cherche peut-être dans l'espace, dans un lieu, dans un organe, par exemple le cerveau. On va quelque part pour saisir quelque chose qui serait le lieu d'où provient la conscience. Mais en même temps, en faisant cela, on est déjà dans une sorte d'erreur fondamentale, qui est de ne pas comprendre que ce dont on parle, ce dont on veut chercher l'origine, c'est précisément l'origine même de la question de son origine. C'est-à-dire, vous vous posez la question d'où vient la conscience, et il faut que vous vous rendez compte aussi que cette question, c'est un acte de conscience. Donc, d'où vient la conscience ? Eh bien, elle vient aussi du lieu même de sa propre interrogation, c'est-à-dire d'un acte de conscience. C'est complètement circulaire. L'enquête doit absolument prendre la mesure du fait que son objet n'est pas un objet, mais qu'il est l'origine des visées d'objets. La conscience est l'origine des visées d'objets. C'est ça la difficulté de cette enquête particulière. Elle n'est pas ordinaire, elle ne porte pas sur quelque chose. Elle porte sur la condition de possibilité pour qu'on se donne quelque chose. À voir, à sentir, à imaginer ou à penser.
Est-ce qu'on pourrait parler de ressenti, pour essayer de vraiment simplifier, en se disant que finalement ce qu'il y a à explorer, c'est de ressentir cette expérience consciente qui s'élève en soi. Est-ce que ce serait ça ?
Alors, effectivement, c'est très important de la ressentir, parce que si on s'abstient de la ressentir et qu'on court immédiatement à des connexions entre phénomènes, à des connexions entre objets qui sont typiques des études scientifiques, ben, on manque le but. Puisque, comme le disait par exemple Ernst Cassirer, un philosophe allemand du début du XXe siècle, quand on parle de la conscience comme un but, on oublie que ce but-là est celui à quoi toute la connaissance tourne le dos. Pourquoi ? Parce que toute la connaissance part de la conscience et va vers quelque chose, qui sont l'ensemble des objets de conscience. Mais là, on parle justement de ce à quoi s'adosse toute la connaissance, c'est-à-dire l'acte de conscience. Donc je le redis d'une autre façon, ça revient même, il faut absolument se rendre compte de la singularité exceptionnelle de ce thème de recherche. Bon. Maintenant, évidemment, il se trouve que dire cela, malgré, en quelque sorte, l'évidence que ça leur représente, ce n'est pas toujours saisi par les chercheurs, par exemple les chercheurs en neurosciences, qui prétendent formuler une théorie de la conscience. Ce qu'ils arrivent à formuler, ce n'est pas une théorie de la provenance matérielle de la conscience, contrairement souvent à ce qu'ils prétendent faire, mais c'est simplement quelque chose qui intéresse énormément les médecins, qui est d'être capable de prévoir l'occurrence ou la non-occurrence de la capacité d'un rapport verbal des patients lorsque ces patients sont soit en phase d'endormissement, soit en phase de coma, d'état végétatif, d'anesthésie générale, etc. C'est absolument considérable. On a fait des progrès énormes dans ce sens-là et ça a donné presque un vertige de la toute-puissance aux neurologues qui se sont dit, puisqu'on arrive à prévoir ces choses-là, puisqu'on arrive véritablement à extraire des critères qui nous permettent de déterminer si telle ou telle personne va se réveiller, pouvoir parler, pouvoir répondre de façon coordonnée à nos sollicitations et donc être tenue pour être consciente, alors c'est que nous avons une théorie de l'existence et de l'origine de la conscience dans les lieux du cerveau qui sont corrélés justement à cette capacité d'expression.
Et Michel Bidmol, est-ce qu'on pourrait peut-être le dire autrement, toujours dans le souci de bien comprendre les enjeux, c'est que d'un côté on aurait les neurosciences qui s'attachent à comprendre qu'est-ce qui est en train d'être fait, et de l'autre côté on se demanderait quelle est la nature de ce qui est en train d'être fait. Est-ce qu'on pourrait le voir comme ça ?
Oui, alors les neurosciences, en fait, s'attachent à un objet. Bon, un objet qui est effectivement
un objet extérieur à soi, donc.
Extérieur, qui est le cerveau. Alors ça peut être son propre cerveau. C'est ça qui est assez extraordinaire. Hein. Il y a même des expériences qu'on appelle les expériences de neurofeedback, dans lesquelles on a l'image devant soi de son cerveau, mais en général toujours de son cerveau quelques secondes avant l'acte de pensée actuel. Et on peut ainsi assister en direct au fonctionnement de son propre organe, disons de l'organisation des informations. Mais en même temps, cette science d'objet manque la réalisation du fait qu'elle a son origine précisément dans un acte de conscience. D'une part, la visée de l'objet qui est devant soi, devant l'écran.
Le seul fait de le regarder.
Le seul fait de le regarder, exactement. Et que, pourtant, le thème qu'elle est en train de vouloir explorer est cet acte qui est antérieur à toutes les visées d'objets qu'elle peut faire. Donc c'est assez paradoxal, quoi, là aussi. Vous avez d'un côté des neurologues qui se précipitent vers la vision de quelque chose qui est devant nous et qui oublient que ce qu'ils veulent étudier, ce n'est pas ce qui est devant nous, mais l'acte même qu'ils sont en train de faire, en quelque sorte, derrière leur dos, pour voir cet objet qui est leur cerveau. Donc il y a une sorte d'inversion perpétuelle de l'objet et du thème.
Un peu comme si, finalement, la question constante, c'est comment se fait-il que je puisse être conscient ? J'imagine que, ou que je puisse savoir, donc. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui est en moi, fait que je puisse être conscient ? Est-ce qu'on peut aussi imaginer que c'est ça la question ?
Alors oui, c'est certainement ça la question. On voudrait savoir. On voudrait savoir exactement. En même temps, pour savoir cela, pour se donner en tout cas l'impression qu'on est en train de progresser vers le savoir de cela, eh bien, on redéfinit la conscience. On la redéfinit de façon à ce qu'elle devienne accessible à une étude objective. On la redéfinit, par exemple, comme l'ensemble des fonctions qui permettent de synthétiser la représentation ou les représentations et l'ensemble des fonctions qui permettent ce qu'on appelle la métacognition, c'est-à-dire la connaissance de la connaissance, en termes philosophiques, la réflexivité, le se savoir sachant. Une fois qu'on a fait ça, on trouve effectivement des corrélats neuronaux de ces opérations, des corrélats neuronaux du rassemblement des traitements de l'information spécialisée qui se passe dans les modules périphériques du cerveau, dans ce qu'on appelle un espace de travail neuronal global. Et donc on voit comment effectivement il y a synthèse des informations. Et d'un autre côté, il y a des cycles de récursivité du travail neuronal qui permettent de comprendre comment il peut y avoir justement une connaissance de la connaissance. Mais par contre, on n'a absolument aucune lumière sur un aspect de la conscience qui est pourtant le plus fondamental de tous, qu'on appelle en termes techniques la conscience phénoménale, c'est-à-dire le pur apparaître, la pure expérience. On n'a absolument aucune notion là-dessus, aucune idée de comment cela pourrait se passer dans le cerveau, et même aucune idée de s'il faut réellement un cerveau pour cela.
Donc en fait, on arrive à analyser et à comprendre notre capacité à former des images, par exemple, et donc à former une connaissance, et des connaissances très simples, la connaissance d'un objet, comme une table, n'importe. On arrive même aussi à savoir que nous sommes en train d'être conscients qu'il y a une table en face de soi, si je vous suis bien, mais par contre, on n'arrive pas à savoir d'où vient cette table qui surgit à notre conscience. D'où Quel est le lieu d'où elle surgit, c'est ça ?
Voilà, d'où vient le surgissement même de l'apparaître.
C'est ça.
Non pas de la table, je ne sais pas, je ne non, sais rien de la table, je ne sais rien non plus de l'expérience, mais ce qui est absolument mystérieux, c'est justement ça, qu'il y ait de l'apparaître de la table.
Que tout à coup, je puisse être dans cette réalité-là.
Voilà, ce n'est pas seulement que la table ait été le produit, si vous voulez, d'un traitement de l'information, et qu'ensuite...
Et le traitement des couleurs, etc., des stimuli, etc.
Et qu'ensuite tout cela soit rassemblé dans une seule image, ça, ok, les neurosciences parviennent tout à fait à le concevoir, mais ce qu'elles ne conçoivent pas, c'est quelque chose qui est quasiment innommable, c'est-à-dire qu'il y ait de l'apparaître plutôt que rien. Que ce traitement de l'information, que ce rassemblement des informations de couleurs, de formes, de mouvements, etc., ne soit pas qu'un processus purement automatique, purement aveugle, purement se déroulant dans le noir, mais que tout à coup, plaf, il apparaisse. Il apparaisse comme une lumière, en quelque sorte, hein, puisque c'est, évidemment, c'est toujours une clarté, l'apparaître de quelque chose. Donc ça, aucune idée. Absolument aucune idée. Et c'est pourquoi les philosophes ont inventé des mots pour désigner cette énigme. Il y a David Chalmers qui a appelé ça le problème difficile de la conscience, par opposition au problème facile que je viens de vous citer. Par exemple, le problème de comment on passe du sommeil à l'éveil, comment on passe de l'information dispersée à l'information synthétisée, etc. Mais le problème difficile, c'est pourquoi tout cela apparaît plutôt que pas.
Le monde n'a pas créé le moi n'a pas créé le monde. Ce sont deux objets pour la conscience absolue, impersonnelle, et c'est par elle qu'ils se trouvent reliés. Cette conscience absolue, lorsqu'elle est purifiée du « je », n'a plus rien d'un sujet. Ce n'est pas non plus une collection de représentations, elle est tout simplement une condition première et une source absolue d'existence. Jean-Paul Sartre, Transcendance de l'ego.
Alors, Michel Bitbol, il y a une question, alors la question d'un béotien pur, mais qui est importante, c'est pourquoi ces questions sont importantes. Pourquoi des gens comme vous, qui travaillez au CNRS, pourquoi d'autres, pourquoi plein de philosophes, etc., et depuis longtemps, parce que là, on ne va pas entamer le chapitre de l'histoire de ces études, mais elles sont presque, on pourrait dire, elles accompagnent l'humanité depuis quasi ses débuts. Mais pourquoi finalement cette question est aussi importante, Michel Bitbol?
Alors, d'abord, je dois vous dire qu'un certain nombre de spécialistes de neurosciences, pas tous, hein, mais certains, considèrent que cette question devrait être mise de côté. Parce que précisément, c'est une question qu'ils qualifient carrément de non scientifique. Parce que, au fond, pourquoi s'occuper du hard problem? Pourquoi s'occuper du problème difficile de l'émergence d'une expérience? Mais n'oubliez pas que nous ne sommes pas seulement des scientifiques. Nous sommes aussi des êtres humains, et des êtres humains qui, en quelque sorte, rencontrent cette énigme dès leur naissance. On est plongé dedans à l'instant même où on ouvre les yeux, et où probablement même avant qu'on ouvre les yeux, au moment où on ouvre la pure sensation.
Oui, mais on pourrait vous opposer à ça, Michel Bitbol, le fait que tout ce processus est un processus purement naturel, que nous expérimentons effectivement, comme vous le dites, depuis notre naissance. Mais donc il n'y a pas non plus besoin d'y réfléchir. Il suffit de vivre.
Alors effectivement, idéalement, il suffit de vivre. Mais vous savez, la culture, c'est un processus assez complexe dans lequel les étonnements premiers trouvent une forme soit philosophique, soit scientifique. Et quelquefois, ces formes philosophiques ou scientifiques sont autant d'égarements, autant de non-compréhension de la question fondamentale. Et donc, une fois qu'on a commencer à prendre la voie de ces égarements, eh bien, il faut les dénouer progressivement de façon à revenir à l'évidence première et à ne pas se laisser attraper, en quelque sorte, par des fausses questions.
Vous êtes en train de dire que la science et la philosophie pourraient être des sortes de détours de terrain dans lesquels nous nous perdons et qu'il s'agirait donc, alors, dans ce cas, de revenir au tout départ, c'est-à-dire à cette expérience du vivant.
Tout à fait. Vous savez que l'un des buts de la philosophie tel qu'il a été formulé par Wittgenstein, c'est exactement ça. Il disait « L'histoire entière de la philosophie, c'est la formation de nœuds conceptuels dont nous ne pouvons plus sortir. Nous sommes enfermés dedans, nous sommes en quelque sorte ligotés par tous ces nœuds conceptuels. » Et donc, la philosophie doit avoir pour tâche de revenir en amont de tous ces nœuds, de les dénouer un par un, de façon à nous libérer de cette prison.
Alors là, il y a un magnifique paradoxe, hein, Michel Bitbol. C'est que cette question initiale de pourquoi les choses apparaissent est la question première, et pourtant c'est la plus difficile à traiter.
Oui, c'est la plus difficile à traiter.
Mais pourquoi alors ce paradoxe?
Bon, finalement, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on s'occupe d'objets? C'est qu'on isole un certain nombre d'éléments de notre expérience, on isole des formes, on isole des éléments qui sont partageables entre tous les sujets, et que l'on appelle les invariants de l'expérience. Donc c'est l'ensemble des moments de l'expérience qui ne bougent pas lorsqu'on change de situation, lorsqu'on change d'individu, lorsqu'on change de temps, etc.
La fameuse table que vous voyez et que je vois.
Voilà, nous voyons tous les deux la même table, et pourtant nous ne voyons pas nécessairement la même forme. C'est ça qui est absolument passionnant. On a deux expériences complètement différentes. Peut-être que vous voyez même des nuances de couleurs que je ne vois pas, parce que nos rétines ne sont pas pareilles, nos cerveaux ne sont pas pareils, etc. Donc on voit deux choses, en fait, assez différentes, et on l'appelle tous les deux table. Et à partir de là, à partir de cette focalisation sur un terme commun de toutes les connaissances, on peut progresser ensemble. On peut manipuler...
On partage une réalité commune.
On partage une réalité commune, on manipule ensemble, on améliore, etc. Et on fonde une science. Une science qui nous permet de créer l'univers commun de tous les hommes et l'univers dans lequel ils peuvent trouver des solutions à leurs problèmes quotidiens, leurs problèmes de santé, leurs problèmes de transport, etc., etc. C'est ce que nous faisons très bien avec les sciences contemporaines. Mais en même temps, en faisant cela, vous voyez qu'on a justement extrait une partie de notre propre expérience et on a ignoré la totalité de l'expérience. On a ignoré le fait encore plus étonnant qu'il y ait une totalité de l'expérience. Et ce genre d'étonnement sur l'évidence, ce genre d'étonnement sur la banalité absolue, c'est le rôle du philosophe. Edmund Husserl, donc, le fondateur de la phénoménologie, disait « La philosophie, c'est la science des banalités. » La banalité suprême, c'est qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. Et non seulement qu'il y ait quelque chose plutôt que rien, mais qu'il y ait de l'expérience de ce quelque chose. C'est stupéfiant, et en même temps, ça ne peut pas être étudié par une science, pour la bonne raison que c'est un fait totalement singulier, qui ne pourra jamais, en quelque sorte, être isolé de quoi que ce soit, puisque tout acte d'isolement serait encore une partie de lui-même.
Donc le problème, quand vous dites qu'on ne peut pas connaître cela, c'est parce que ça nous fait revenir au connaisseur. C'est-à-dire donc à une expérience absolument et fondamentalement singulière.
Absolument.
Que je ne peux pas partager avec vous parce que je ne peux pas vous dire comment moi je vois la table, en quelque sorte. Est-ce que c'est bien ça ?
Tout à fait. Tout à fait. Alors on ne peut pas la connaître au sens de la connaissance objective.
D'un objet extérieur, etc.
Un objet extérieur. Mais on peut faire ce que Paul Claudel appelait co-naître, c'est-à-dire naître avec. C'est-à-dire être en totale connivence avec ce moment d'expérience que nous sommes en train de vivre, chacun à sa façon. Donc c'est un mode de connaissance qui n'a rien à voir avec la connaissance, disons, distanciée. C'est une connaissance par coïncidence, par complicité, par adhésion, par...
Par langage alors aussi.
Ah, ça dépend. Alors attention, parce que déjà, vous savez, le problème capital, c'est que lorsque je nomme la conscience, je suppose, de façon déjà incorrecte, à l'instant même où je prononce le mot, que c'est quelque chose à quoi je peux faire référence. Or, la conscience n'est pas quelque chose à quoi je peux faire référence.
J'y arrive bien si je parle avec vous de la conscience.
Oui, alors ça c'est un mystère extraordinaire.
C'est fou, non ?
Tout à fait. J'y arrive et en même temps je me trompe. C'est ça qui est intéressant. J'y arrive parce que je partage avec vous une sorte, justement, de familiarité avec ce même, non pas phénomène, mais fait intégral de la phénoménalité, c'est-à-dire le fait intégral qu'il y a de l'apparaître plutôt qu'aucun. Donc je le partage avec vous, j'arrive même à l'évoquer devant vous, mais en même temps, lorsque j'en parle comme si je parlais, par exemple, d'un livre ou d'une rose, je vous égare. Et je m'égare, parce que je considère que j'en parle comme si c'était quelque chose vers quoi je pouvais me tourner, vers quoi je pouvais élaborer cet acte justement d'isolement, d'extraction, de mise en évidence que je fais habituellement pour tous les objets de science. C'est une erreur, d'emblée. Alors, comment faire ? Est-ce qu'il faut ne plus utiliser le langage pour en parler ? Peut-être pas. Il y a peut-être d'autres modes d'utilisation du langage que de faire référence qui sont plus appropriés à la dénomination de la conscience ou à l'évocation de la conscience que cette forme ordinaire du langage. Et cette autre version du langage que je pourrais utiliser pour accéder de façon plus fidèle et plus exacte à la conscience, c'est ce que j'ai appelé dans mon livre la fonction autolocutoire.
Autolocutoire, est-ce que vous pouvez préciser ?
Alors, comme son nom l'indique, c'est une parole qui est tournée vers sa propre source, au lieu d'être tournée vers des choses qu'elle pourrait désigner. Quand je prononce le mot, justement, table, ou le mot rose, ou le mot mur, eh bien, je me tourne vers quelque chose, vers un ailleurs, vers un plus loin.
Vers un objet, vers un extérieur.
Un extérieur. Par contre, si, par exemple, j'utilise la belle formule de Descartes, « je pense, donc je suis », elle dénote une sorte de retournement vers soi-même, puisque tout à coup, je réalise que je suis en train de penser, et donc, je m'aperçois que je ne peux pas ne pas être, parce que sans cela, je ne penserai pas.
Et que la seule chose dont je sois sûr, c'est de penser.
Et que la seule chose dont je sois sûr, comme le dit effectivement Descartes, c'est de penser. Donc, par cette forme de parole, je me tourne tout à coup vers moi-même, vers mon acte de pensée, et non pas vers l'objet de cette pensée.
D'où l'idée de auto-locuteur. Je parle de moi qui est en train de penser, non pas de ce à quoi je suis en train de penser.
Exactement. Et donc, cette forme d'utilisation du langage me retourne vers le thème de mon enquête. Et c'est pourquoi un certain nombre de philosophes, j'ai cité Descartes, mais il y en a beaucoup d'autres, toute la tradition phénoménologique est faite de ça, utilisent un langage qui, justement, est une sorte de miroir sonore vers celui qui utilise les sons.
Je pris garde que, pendant que je voulais ainsi penser que tout était faux, il fallait nécessairement que moi qui le pensais fusse quelque chose. Et remarquant que cette vérité, je pense, donc je suis, était si ferme et si assurée que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques ne pouvaient l'ébranler. Je jugeais que je pouvais la recevoir sans scrupule pour le premier principe de la philosophie que je cherchais. René Descartes, Discours de la méthode.
Nous avons quelque chose d'extraordinaire à découvrir, essentiellement nous-mêmes. Nous n'osons pas aller jusqu'au bout de cette découverte parce qu'elle est vertigineuse, et donc nous cherchons un moyen d'être liés par quelque chose. Liés par quoi ? Eh bien, peut-être par nos propres déterminants que nous pensons être déterminants objectifs. Et donc, nous nous jetons dans une recherche externalisée à propos de nous-mêmes, c'est-à-dire une recherche de nos déterminants neurophysiologiques. En externalisant cette recherche, nous nous protégeons du vertige de la liberté. Et donc, en ayant cet objectif de connaissance de soi-même en tant qu'extérieur, grâce au Blue Brain Project, par exemple, eh bien, on s'exonère de notre propre responsabilité vis-à-vis des décisions qu'on prend, qui engagent notre avenir. Qu'est-ce que ça sera, un monde dans lequel on connaîtra si bien le cerveau, qu'on pourra, par exemple, travailler sur les projets de transhumanité, c'est-à-dire d'homme bionique, ou voir les projets de post-humanité, c'est-à-dire de remplacement, de substitution, il en est parfois question dans certaines sphères de recherche, de l'humain par du non-humain. Est-ce qu'on a envie vraiment de ça ? Est-ce que l'humain a réellement pris la mesure de l'absurdité qu'il y a à s'externaliser tant et si bien qu'il finit par s'exclure lui-même de sa propre sphère d'être ? C'est vraiment complètement vertigineux, ça pose des questions immenses, des questions qu'on devrait se poser si on pouvait s'arrêter ne serait-ce qu'une seconde dans la course effrénée vers la poursuite des biens et des objets.
Qui finalement prend le temps de s'arrêter de temps en temps dans cette course ?
Alors normalement ça devrait être la fonction des philosophes, mais on leur reproche. On leur dit « mais vous êtes en train toujours de regarder dans le rétroviseur ». Le rétroviseur c'est là d'où nous partons. Mais là d'où nous partons ne peut pas ne pas influencer là où nous voulons aller. Il faut absolument savoir qui nous sommes pour savoir ce que nous voulons être. Notre projet d'être constitue notre être tout autant que notre être détermine notre projet d'être. On doit faire cette petite pause pour se demander où nous voulons aller.
Et répondre alors au titre de votre dernier ouvrage, « La conscience a-t-elle une origine pour le coup ?»
Voilà, exactement, oui. Tout à fait.
Je suppose que pour l'instant, tu te sens un peu comme Alice. Tombée dans le terrier du lapin blanc.
On pourrait dire ça.
Je le lis dans ton regard. Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Et paradoxalement, ce n'est pas tout à fait faux. Crois-tu en la destinée, Néo ?
Non.
Et pourquoi ?
Parce que je n'aime pas l'idée de ne pas être aux commandes de ma vie.
Bien sûr, et je suis fait pour te comprendre. Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir. Un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Sais-tu exactement de quoi je parle ?
De la matrice.
Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est ? Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus.
Jean-Marc Falcombello, on vient d'entendre un extrait du film Matrix, le premier opus, où il est fait allusion au lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles, mais où il est surtout question d'oser aller au-delà des apparences, choisir l'une des deux pilules, si ce n'est aucune.
C'est ça, non mais c'est tout à fait passionnant, vous le dites bien. Et effectivement, on est un peu Alice au Pays des Merveilles avec cette question sur la conscience. Est-ce que finalement, je peux m'extraire de cette vision qui est là, sans arrêt, devant moi, dans mon œil ? Est-ce que je peux revenir à, finalement, qui voit, hein ? C'est toujours cette fameuse question. Mais ce qui est aussi intéressant avec la question des apparences de la conscience, c'est de se dire, bah voilà, comment explorer la conscience, cette expérience consciente. Alors j'ai été voir, pour essayer d'avoir un peu des éléments de réponse, j'ai été voir Charles Genoux, qui est maître de méditation, qui est auteur, entre autres, d'un article très intéressant sur la conscience, paru dans Journal of Consciousness Studies. Puis voilà, je lui ai simplement demandé, bah, pourquoi, selon lui, il est si important d'essayer de savoir ce qu'est la conscience, qui sommes-nous en fait, alors qu'on pourrait aussi très bien se laisser vivre. Alors en fait, pourquoi chercher ?
C'est très intéressant qu'on se pose même la question, à savoir pourquoi la question de la conscience est importante. Qu'on puisse se poser cette question-là, c'est assez frappant ou assez surprenant. Parce que dans le fond, si on regarde la manière dont on fonctionne, dès le plus jeune âge, on doit apprendre à gérer le monde qui nous entoure. L'enfant, il apprend à nommer, à reconnaître, pour savoir ce qui est dangereux, ce qui est utile, ce qui est nuisible. Donc on développe des capacités immenses, avec l'école, la formation professionnelle, l'activité professionnelle. Et c'est-à-dire qu'on est toujours dans une sorte d'activité. On essaye d'acquérir un petit peu plus de confort, de bien-être, d'éliminer les difficultés, le mal-être, l'inconfort. Mais dans le fond, jamais, dans ces préoccupations constantes, on se pose la question, pour qui est-ce qu'on fait tout ça ? Et la question essentielle, c'est, dans le fond, pour qui est-ce que je m'affaire constamment ? Et ce pour qui est-ce que je fais tout ceci nous renvoie à la question de la conscience.
Mais alors, ça voudrait dire que ce qui est la conscience ?
Bien sûr, ce que nous sommes essentiellement, c'est la conscience. Cette conscience d'être. Si je viens à une citation de Sartre qui dit « Toute existence consciente existe comme conscience d'exister ».
J'ai conscience d'exister, c'est ça mon état.
Voilà, la conscience a comme caractéristique d'être conscience d'elle-même, conscience d'exister, conscience de son propre être. Et cette conscience de son propre être, de la conscience, il est voilé par toute cette activité dans laquelle on s'engage, activité utile, importante, mais il y a une sorte d'oubli fondamental dans tout ceci, un oubli extrêmement important et extrêmement grave, qui est l'oubli de ce que nous sommes essentiellement, ce qu'est mon être dans toute cette histoire-là. Donc la question de la conscience nous remet sur ce qu'est mon être essentiel.
Très bien, mais pourquoi ai-je besoin de le savoir? Parce que je pourrais très bien dire, mais il me suffit de me diriger dans le monde, de savoir comment obtenir le maximum de bonheur, éviter le maximum de souffrance, et je pourrais me dire, ben, tout va bien comme ça. Alors que l'on voit, on entend des gens comme Michel Bitbol s'intéresser à qu'est-ce que la conscience, quelle est l'origine de la conscience, à écrire des livres et des livres, il y en a d'autres, il y a toute la tradition de la phénoménologie, on se pose la question. Il y a les scientifiques qui s'intéressent aussi à cette question, peut-être d'une autre manière, on peut le voir plus tard. Mais finalement, pourquoi aurais-je besoin vraiment de savoir ce que c'est?
Eh bien, tout ce que vous avez dit, c'est très important, parce qu'il s'agit de resituer la question où elle se situe, c'est-à-dire dans l'existence de chaque personne. Ce n'est pas une question scientifique, ce n'est pas une question philosophique, c'est une question existentielle pour chaque personne. Alors maintenant, les scientifiques, les philosophes abordent ceci de manière élaborée, assez compliquée. Quelquefois, on a un peu de peine à s'y retrouver, mais avant tout, pour chaque personne, c'est une question fondamentale. Alors, on peut très bien l'éviter en s'affairant, en ayant des objectifs économiques ou tout autre. Mais dans cet affairement dans lequel on peut se perdre, dans le fond, il y a quelque chose qui manque, c'est le sens profond de l'existence. Et ce sens profond de l'existence, il peut ressurgir parfois de manière intense, dans les cas de difficulté, dans une réflexion face à la mort. Donc il y a là quelque chose d'essentiel. Ce qui semble faire défaut à notre époque, sans vouloir faire un procès de notre époque, qui est extrêmement riche, c'est le manque de sens. Plus on devient efficace dans la manière d'utiliser la conscience dans ce qu'elle peut faire, percevoir, imaginer, planifier, créer, plus on se coupe de ce que nous sommes essentiellement, cet être conscient, et à ce moment-là, il y a une sorte de scission, il y a un grand manque. Cet oubli de ce que nous sommes essentiellement, cet être qui est la conscience, si on l'oublie, si on n'en est pas conscient, si on s'en coupe par ce fait d'être affairé constamment, alors il y a un profond manque. Un profond désarroi que l'on peut sentir. Alors, quand la science essaie d'étudier la conscience, avec toute la sophistication dont elle est capable, avec les machines extrêmement sophistiquées, eh bien, j'ai l'impression que la science a ses propres outils et elle essaie d'amener la conscience sous ses feux, dans son champ, mais qu'en fait, la conscience, par nature, elle ne peut pas être dans le champ de la science.
Ça veut donc dire, selon vous, que la conscience n'est pas un objet? C'est pas un objet qu'on peut, au même titre que n'importe quel autre, disséquer, voir, mesurer, etc.
Ça, c'est la grande erreur. C'est de chosifier la conscience. De croire que la conscience serait simplement un objet, un phénomène parmi tous les autres. Donc, on va simplement, tout d'un coup, s'intéresser à la conscience comme on s'intéresse à différents phénomènes. Mais la conscience est quelque chose de très particulier. Kant disait, on ne saurait connaître comme un objet ce qui permet de connaître les objets. Et là, il est, je crois, indispensable de faire une distinction entre connaissance et conscience. Parce que si on ne fait pas cette distinction, on ne comprend pas ce dont il s'agit. Donc là, il y a une distinction fondamentale. La connaissance, qui est la sphère des sciences essentiellement, de la philosophie aussi en grande partie, mais des sciences, la connaissance est une transposition de quelque chose, une transposition, disons, au niveau le plus simple, une transposition d'une expérience sensorielle et autre, une transposition en concept, pour pouvoir en tirer des lois, pour pouvoir en tirer des généralités. Donc il y a une transposition, et tout le domaine de la connaissance est le domaine des concepts, de telle sorte que la connaissance, on peut la transmettre, on peut la donner, on peut la répertorier, on peut la mettre dans des encyclopédies. Ça, c'est tout le domaine de la connaissance. Alors que la conscience elle-même, elle n'est pas une transposition en concept, elle, la conscience, c'est l'expérience directe avant toute transposition. Il y a, on pourrait dire, une expérience pure, sans vouloir donner trop de sens ultime à ce terme pur, mais il y a l'expérience dépouillée, et ensuite le sens que la connaissance tire de cette expérience-là. Or, ce qui est spécifique à la connaissance et à la science, c'est cette transposition, le fait de mettre en concept. Et de pouvoir mettre en concept ceci est une mise à distance aussi. Or, la conscience, on ne peut pas la mettre à distance.
Quand vous voulez dire mise en distance dans le sens où quand on est dans l'objet, on n'est plus tout à fait, on est mis à distance de sa propre conscience. C'est ce que vous dites ?
La connaissance met son objet à distance de ce qu'il connaît. Il y a le sujet connaissant et ce qui est connu. Il y a une scission qui se fait là. Dans la conscience elle-même, il n'y a pas cette scission. Il y a une expérience avant cette mise en forme, cette mise en sens d'un objet et d'un sujet. Si on se pose cette question, comment aborder la conscience, comment la connaître, bien que le terme ne soit pas judicieux dans ce que je viens de dire, il faudrait plutôt dire comment être conscient de la conscience. Eh bien, si on remarque de quelle manière, quand on se pose cette question, habituellement, qu'est-ce qu'on va utiliser comme mode de connaissance ? C'est très simple. Si on veut connaître une forme, une couleur, à ce moment-là, on regarde. Si on veut connaître le chant d'un oiseau, on écoute. Si on veut connaître le goût d'un fruit, on le goûte. Si on veut connaître la texture ou la température d'un objet, on le touche. Donc il y a les canaux des sens qui nous donnent accès au monde qui nous environne. Et puis ensuite, il y a la réflexion. On peut, par la réflexion, tirer des conséquences de quelque chose, connaître ceci parce que ça découle de cela. Il y a donc tous ces canaux, les cinq sens, plus la réflexion intellectuelle, rationnelle. Mais maintenant, si on se pose la question, et alors, quand on veut investiguer la conscience, quel canal est-ce qu'on va utiliser ? Est-ce qu'on va utiliser la vision ? Ça voudrait dire que la conscience est une forme, une couleur. Est-ce qu'on va utiliser l'audition ? Ça voudrait dire que la conscience est un son. Est-ce qu'on va utiliser le goût ? Ça voudrait dire qu'elle a un certain aliment. Est-ce qu'on va utiliser la réflexion ? Ça voudrait dire que la conscience est un concept, une idée. Or la conscience, elle n'est rien de tout ceci. Elle n'est ni une forme, ni une couleur, ni une idée, ni un concept.
Comment on le sait ça ?
Parce que si elle était une forme, une couleur, à ce moment-là, comment est-ce qu'on pourrait justifier que la conscience, elle peut être consciente de son ? Si elle était une idée, comment une idée peut être consciente de quelque chose d'autre ?
Donc si elle était un de ces objets dont vous avez parlé, ça voudrait dire qu'elle est comme ça, elle ne pourrait pas être autrement.
Voilà.
C'est ça ?
Si on chosifie la conscience, eh bien alors, dans le domaine des choses, on essaie de voir dans quelle sphère elle viendrait se poser. Et on se rend compte que c'est absurde, elle ne peut se poser pas dans les sphères sensorielles, perceptibles par les sens, ni déductibles d'une réflexion. Donc on se rend compte à ce moment-là que ces canaux habituels ne jouent pas. Il faut trouver quelque chose de différent pour essayer d'aborder la conscience.
D'accord. D'où la question alors de l'outil. Pour autant qu'on s'intéresse au sujet, hein, bien sûr. Puis c'est vrai que finalement, vu que ça nous regarde, étant donné que nous sommes des êtres conscients. Alors, c'est quoi les outils ? Ou les canaux ?
Voilà, et c'est là qu'il y a une sorte de renversement radical de l'attitude ordinaire ou l'attitude quotidienne qui, justement, veut mettre en place des outils pour faire ceci, pour faire cela, pour accomplir quelque chose. Et là, il ne s'agit pas de développer un outil particulier, mais de se dépouiller de tous les outils. Alors, évidemment, c'est inhabituel, et c'est aussi pour ceci que c'est assez difficile pour les scientifiques. Si on leur disait « laissez tomber tous les outils », faisant qu'il y en a pareil, évidemment, sans aucun concept, essayer d'explorer ce qui se passe, ou comment est-ce qu'on peut avoir accès à la conscience sans qu'il y ait des outils. Lorsqu'on ne s'attache à rien, et qu'il n'y ait même pas le projet de savoir ce qu'est la conscience. C'est dans ce dépouillement-là, donc l'outil, comme vous posiez la question, l'outil c'est l'absence totale d'outil, c'est l'absence de but particulier, parce qu'un but particulier, même de connaître la conscience, ça serait encore juste un contenu, un concept dans la conscience. Donc si on a parlé des canaux des sens, des canaux de la réflexion, qui n'étaient pas appropriés, ils sont tous appropriés, dans le fond, pour connaître la conscience, mais dans la mesure où on change d'attitude. C'est dans ces expériences quotidiennes, toutes les expériences quotidiennes de la vision, de l'audition, de la réflexion, il ne s'agit pas ni de les éliminer, de faire le vide, comme on entend parfois, un peu, de manière un peu caricaturale. Il ne s'agit pas de faire le vide, il s'agit simplement, dans les expériences de vision, d'audition, de réflexion, une sorte de renversement de l'intérêt ou de...
De l'intérêt, vous dites ?
De le fait de ne plus être fasciné par ce qu'on voit, ce qu'on entend, la pensée intelligente que l'on fait surgir, mais de revenir à quelque chose de plus intime dans cette expérience-là, qui fait que, dans la vision, la conscience se connaît en même temps qu'elle connaît une forme. Dans l'audition, la conscience, elle est consciente d'elle-même en même temps qu'elle entend. Et en général, nous sommes tellement accaparés par ce qui est entendu et ce qui est vu, que cette conscience consciente d'elle-même, elle est peu perceptible, on n'en est pas conscient, parce que nous sommes tellement focalisés sur l'objet, le son, la forme, la couleur. Mais s'il y a un relâchement par rapport à cet intérêt, à ce moment-là, la conscience qui se connaît elle-même, qui est sa nature, qui est ce qu'elle est à chaque instant, alors elle apparaît clairement elle-même, sans qu'il y ait la nécessité d'une médiation, ni la médiation des sens, ni la médiation d'un concept, elle est elle-même, dans sa propre nature, consciente d'elle-même.
Dans votre article sur la conscience, vous citez beaucoup les mystiques chrétiens. On y voit Maître Eckhart, on y voit Saint Augustin, il y a aussi des auteurs fort connus comme Paul Valéry. Alors, est-ce à dire que, justement, eux, peut-être, s'attachent à connaître ce qu'est donc la conscience, par leur biais à eux, j'en sais rien, mais découvrent-ils quelque chose qui est en rapport à ce que vous tâchez d'expliquer ici?
Alors, les grands spécialistes de la conscience, on parlait de l'âme à cette époque, eh bien c'est les mystiques. Et ce qu'on remarque d'une manière assez frappante, c'est que si on lit des textes mystiques, chrétiens, ou d'autres traditions, traditions hindoues par exemple, ou de la tradition musulmane, il y a des grandes similitudes dans leur approche. C'est un peu comme si on avait l'équivalent scientifique, des scientifiques étudient quelque chose en Californie, à Shanghai, à Oslo, et qu'ils arrivent aux mêmes conclusions, des conclusions similaires, indépendamment les uns des autres. Dans toutes ces réflexions mystiques et toutes les descriptions, on trouve des choses extrêmement similaires.
Mais alors, est-ce que ça veut dire que c'est juste que du domaine des mystiques, cette question de la conscience ? Qu'il faudrait soi-même être mystique pour que ça nous intéresse ?
Non, parce que Paul Valéry, qui n'était pas mystique, a des descriptions très, très claires. Il parle de son moi pur, ici il parle de la conscience. Il dit « la connaissance sans objet ».
Je ne me suis jamais référé qu'à mon moi pur. Par quoi j'entends l'absolu de la conscience, qui est l'opération unique et uniforme de se dégager automatiquement de tout, et dans ce tout figure notre personne même avec son histoire, ses singularités, ses puissances diverses et ses complaisances propres. Je compare volontiers ce moi pur à ce précieux zéro de l'écriture mathématique auquel toute expression algébrique s'égale. Paul Valéry et l'expérience du moi pur.
Les êtres humains qui ont développé cette technique, on va dire prendre un terme qui n'est peut-être pas judicieux, eh bien, ce sont les mystiques qui ont développé ceci, mais à cause de leur langage, qui est évidemment teinté culturellement ou religieusement, on les écoute peu. Mais c'est eux les grands explorateurs de ce domaine-là. Et si on veut trouver des sources qui soient des sources extrêmement riches, c'est vers eux qu'il faut tourner. Et le langage, il n'est pas très compliqué à comprendre. Quand on lit des textes de Maître Eckhart, de certains maîtres hindous, de certains mystiques musulmans, on retrouve un langage, mais d'une grande similarité. On pourrait citer ici le texte de Maître Eckhart. Où on voit bien qu'il ne s'agit pas de faire le vide, mais que dans toute expérience, si on ne saisit pas le contenu de l'expérience, alors il y a cette clarté de la conscience à elle-même.
Alors Charles Genoux, est-ce que ce que ces mystiques découvrent, d'une certaine manière, répondrait peut-être à la question initiale qu'on se posait en début d'entretien, c'est-à-dire pourquoi finalement s'intéresser à la conscience? Est-ce qu'il y a là une découverte qui, d'une certaine manière, permet de penser qu'il vaut la peine de découvrir ce qu'est la conscience?
Dans la tradition mystique, évidemment, c'est fondamental, c'est le but de toute la vie spirituelle. Maintenant, on peut très bien, au XXIe siècle, formuler ceci de manière plus athéiste, mais cette conscience de soi, dans sa totalité, est aussi, d'une certaine manière, une liberté totale, puisqu'elle est libre de tous ses contenus, de toutes les contraintes. Donc il y a là un sens profond à l'existence, et qui ne dépend pas d'une religion ou d'une autre, qui dépend simplement de la nature humaine. Le fait de s'intéresser à la conscience, c'est-à-dire à ce qu'on est essentiellement, dès qu'on parle de conscience comme si c'était un objet d'étude, c'est comme si on s'en séparait. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce que je suis essentiellement, c'est être conscient. C'est ça qui m'intéresse dans mon existence, non pas ce que les scientifiques en disent, ni les philosophes, ni même les mystiques, mais c'est comment moi je peux en faire l'expérience, et de quelle manière ceci éclaire mon existence, dans le fond, ce qui est mon existence, mais l'éclaire aussi. Et lorsqu'on essaye d'explorer ceci par des pratiques méditatives, comme on en trouve communiqué à l'heure actuelle dans beaucoup de contextes particuliers. Lorsqu'on explore ceci, on fait aussi, je crois, la découverte d'une liberté intérieure qui est sans limite, et qui n'est pas quelque chose de l'ordre de la croyance, qui est au contraire le fait de dépasser toute croyance.
Donc ça rend libre de s'intéresser à la conscience ?
On pourrait dire que dans le fond, c'est ce qui motive cette quête. C'est une quête de liberté.
Et vous êtes libre de continuer cette exploration avec, pour Charles Genoux que nous venons d'entendre, un site www.vimalakirti.org. C'est également sur notre site rts.ch/babylone. Et puis le livre, l'ouvrage de Michel Bitbol, La conscience a-t-elle une origine? Des neurosciences à la pleine conscience, une nouvelle approche de l'esprit, s'est paru aux éditions Flammarion dans la bibliothèque des savoirs. On se donne rendez-vous lundi dans Babylone où on n'est pas très loin. On va parler de la peur à l'occasion de la semaine du cerveau, Jean-Marc. Peur d'être libre.
Bien sûr.
On est assez raccord.
Voilà, et d'où vient la peur?
Babylone, du lundi au jeudi, vous donne rendez-vous de 9h à 10h avec une rediffusion le soir à 19h. Vous pouvez également télécharger Babylone sur rts.ch/babylone. Ou encore nous retrouver sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir été avec nous. Belle écoute des programmes d'Espace 2.